VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 21 juin 2017. Ekabadou en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Au sommaire ce soir, en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que s'ouvre à Abidjan les Jeux de la Francophonie. Et puis l'ex-chef rebelle Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, demande pardon à tous les Ivoiriens et au président déchu Laurent Gbagbo. Jérusalem a été à nouveau le théâtre de violences sur l'esplanade des mosquées. Dimanche, quelques 6000 spécialistes sont réunis à Paris pour une conférence sur le sida. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, mais tout d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan accueille les 4000 participants au 8e jeu de la francophonie. La soirée de lancement sera présentée par 3 maîtres de cérémonie, Connie Touré, Yves Ogbo Junior et Charlie Tatché. 10 jours pendant lesquels les Ivoiriens pourront profiter d'une ambiance festive. Nous y reviendrons dans notre magazine. Hier, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a demandé pardon aux Ivoiriens et à son principal adversaire d'hier, l'ex-président Laurent Gbagbo, écroué depuis 2011 à La Haye. Le point avec Solange Nimoulissa.
Guillaume Soro a déclaré que la Côte d'Ivoire a plus que besoin de tolérance, de pardon, de réconciliation et de paix aujourd'hui. Il a demandé pardon pour tout ce qu'il a pu faire. Il demande pardon à ses aînés et même au président Laurent Gbagbo, à l'ancien président Henri Konan-Bédier et à l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Il reconnaît que depuis 2002, il a été un acteur important. Guillaume Soro a été le chef de la rébellion pendant la décennie de crise politico-militaire qui a fait des milliers de morts et scindé le pays en deux. Il a été premier ministre, puis ministre de la Défense. Il est régulièrement accusé par ses détracteurs de comploter pour satisfaire des ambitions présidentielles. Il a encore une fois assuré que ce sont des rumeurs.
Hier, après une nuit marquée par des échanges de tirs, la présidence ivoirienne a nommé Ahmed Bakayoko ministre de la Défense. Fermeté et discipline sont ses maîtres mots. Écoutez sa réaction peu après sa prise de fonction au micro de Georges Ibrahim Tunkara.
Ça va être de la fermeté, ça va être un seuil de tolérance zéro sur les questions de discipline, sans arrogance, mais dans le contact, la compréhension, dans la gestion des hommes, se rapprocher de nos hommes, comprendre leurs préoccupations, accélérer l'amélioration de leurs conditions de vie et du travail, comme l'avait entamé mon collègue, demander plus de moyens. Vous voyez bien que même les grands pays comme la France, il y a des secousses au niveau des armées, donc c'est pas un phénomène ivoirien.
C'était donc le ministre Monsieur Bakayoko au micro de Monsieur Tunkara, Georges Ibrahim, notre correspondant. En mars dernier, 2 experts de l'ONU ont été tués en République démocratique du Congo. Un des accusés, Évariste Ilunga, jugé pour assassinat, a été reconnu par un témoin grâce à une vidéo présentée jeudi pendant l'audience du procès devant un tribunal militaire. Les 2 experts onusiens, Michael Sharps, américain, et Zaida Catalan, suédo-chilienne, enquêter sur les violences au Kasaï et sur les fosses communes qui ont causé depuis un an la mort de plus de 3000 personnes. Actuellement en visite en RDC, justement, le sous-secrétaire général des Nations Unies, Stephen O'Brien, met en garde contre la propagation de choléra qui a fait son apparition il y a 3 semaines au Nord Kivu. Plus de 1230 cas ont été recensés. En Mauritanie, le président M. Aziz a lancé hier soir la campagne pour le référendum du 5 août. L'opposition bat campagne de son côté pour convaincre les Mauritaniens de boycotter ce qu'ils appellent une mascarade. Le point avec Salwa Jafari.
C'est devant une foule surchauffée dans un stade archi-comble de Nouakchott que le président Ould Abdelaziz a lancé son appel aux Mauritaniens pour un oui massif.
Je vais visiter le pays avant de revenir ici à Nouakchott le jeudi pour un autre rassemblement. Nous devons vous expliquer les raisons qui nous animent pour faire ces changements à travers ce référendum. C'est important pour l'avenir de notre pays.
Le président mauritanien insiste entre autres sur la disposition supprimant le Sénat. Le Sénat qui a bloqué l'adoption du projet de constitution et bloqué le vote de plusieurs lois, dont le budget de l'État. La décision du président de passer outre en soumettant ce projet à référendum a provoqué la controverse dans le pays. L'opposition et des constitutionnalistes contestent la légalité de cette procédure. Près d'1,5 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer sur ces changements constitutionnels pour lesquels deux urnes sont prévues, l'une pour les principaux amendements et l'autre pour la modification du drapeau national.
L'armée nigériane vient d'affirmer que le bombardement ayant accidentellement tué 112 civils en janvier dernier dans un camp de déplacés du nord-est était dû à une erreur de marquage, estimant que les déplacés n'étaient pas censés se trouver à cet endroit. La commission d'enquête de l'armée de l'air chargée de faire la lumière sur ce drame était censée publier son rapport en février dernier et n'a pas donné d'explication sur ce retard. Toujours au Nigeria, les affaires judiciaires s'accumulent autour de l'ex-ministre du pétrole. Madame Alison Mwedeke a quitté le gouvernement fin 2015 et se trouve impliquée dans des scandales de corruption, de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent. Des poursuites engagées la semaine dernière par Washington pour saisir 144 millions de dollars pourraient n'être que le début des ennuis judiciaires de Madame Alison Mwedeke. Les États-Unis ont fait don de 45 millions de dollars pour assister les réfugiés et déplacés du Boko Haram dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger. Fin juillet 2016, Niamey avait lancé un appel pour la mobilisation de fonds en faveur du PAM qui avait annoncé qu'il risquait de suspendre son assistance humanitaire en raison d'un manque de financement. Au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu public aujourd'hui la réduction du nombre de casques bleus au Darfour à la fin juin. Une résolution a été adoptée pour diminuer de 30% l'effectif de soldats, malgré les réticences des organisations de défense des droits de l'homme. Le président américain Donald Trump a nommé un nouveau directeur de la communication pour la Maison Blanche. Monsieur Scamaucci, 53 ans, prend la place de Sean Spicer, qui avait démissionné parce qu'il était en profond désaccord avec ce choix.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau vendredi de tension à Jérusalem. Des heurts ont éclaté après la grande prière des musulmans près du vieux Jérusalem, dont Israël a interdit l'accès aux Palestiniens de moins de 50 ans. Abdourahman Dia.
À la porte des Lions, à proximité de l'esplanade des mosquées, des centaines de personnes, dont des dignitaires musulmans, se sont approchées. La police israélienne leur a signifié que seuls les hommes de 50 ans et plus seraient autorisés à passer. Des Palestiniens ont jeté des pierres et d'autres objets aux forces de sécurité qui ont tiré des grenades assourdissantes. À l'origine de cette montée de tension, l'installation de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées, décidée après une attaque meurtrière contre des policiers israéliens le 14 juillet dernier. Ces nouvelles mesures de sécurité ont ravivé les craintes des Palestiniens de voir Israël prendre le contrôle exclusif du troisième lieu saint de l'islam, un site également révéré par les Juifs sous le nom de Mont du Temple. L'esplanade des mosquées, où se trouve le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, est située dans le secteur palestinien de Jérusalem, dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.
Un Palestinien a été tué d'une balle dans la tête dans un quartier près de la vieille ville à Jérusalem annexée. On ignore pour l'heure si sa mort est liée aux heurts qui ont été éclatés aux abords de la vieille ville après la grande prière musulmane. Paris accueille à partir de ce dimanche une conférence internationale de 4 jours sur le sida. Elle va réunir quelques 6000 spécialistes pour faire le point sur les avancées de la recherche en attendant de parvenir et à éradiquer le virus ou à trouver un vaccin. Jacques Aristide.
Ce sera la 9e édition de cette conférence scientifique sur le VIH organisée par l'International AIDS Society. L'événement, qualifié d'importance dans la lutte contre l'épidémie, mettra en avant les progrès réalisés au cours des 15 dernières années. L'an dernier, 19,5 millions de personnes sur les 36,7 millions qui vivent avec la maladie ont eu accès au traitement, soit plus de la moitié. Depuis 2005, le nombre de décès liés au sida a diminué de 48% dans le monde. Toutefois, pour Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, nous vivons des temps fragiles et les progrès accomplis peuvent être facilement effacés. En 2016, 1,8 million de nouvelles infections par le VIH ont eu lieu, soit une infection toutes les 17 secondes. L'OMS a qualifié de menace grandissante le développement de résistance aux antirétroviraux. 34 ans après la découverte du sida, il n'existe pas de vaccin et les personnes séropositives doivent suivre un traitement tout au long de leur vie.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Dico.
Nigeria, le gouvernement fédéral va injecter 2,9 milliards de dollars dans la construction de logements. Cette initiative entre dans le cadre du programme nigérian pour l'habitat social afin de répondre au manque de logements et de stimuler la croissance économique. Ce programme sera développé par un partenariat public-privé et le projet devrait aboutir à la construction de 2,5 millions de logements à base de matériaux locaux. Guinée, les autorités vont dédommager les expropriés de Demoudoula, titulaires d'un titre foncier. L'indemnisation n'est donc soumise qu'à une seule condition, la possession d'un titre de propriété. Elle concerne les populations du domaine de la forêt classée de Demoudoula, dont les habitations ont été détruites dans le cadre de l'opération lancée le 13 juillet dernier. Ghana, selon un rapport publié par l'Economist Intelligence Unit à Accra, l'économie ghanéenne devrait progresser de 6% de 2017 à 2021. En 2016, la progression de l'activité économique n'était que d'1%, le plus faible taux de croissance en une décennie. La perspective de croissance positive pour les 4 prochaines années s'explique par le développement des secteurs de l'énergie, des infrastructures et aussi par l'assainissement budgétaire.
Et maintenant, place au sport avec Yacouba Ouadréogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Défaite d'entrée pour les éléphantaux en football aux Jeux de la Francophonie à Abidjan.
Effectivement, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF qui vient de se tenir à Rabat. Au point de la réforme des statuts, désormais les membres africains du Conseil de la FIFA sont membres de plein droit du comité exécutif de la CAF. Les mandats de membres du Conseil de la FIFA et du comité exécutif de la CAF ne sont plus cumulables. Le nombre de commissions permanentes a été revu à la baisse, passant de 19 à 11.
Et on ne peut plus être président de la CAF à plus de 70 ans ?
Oui, le Cameroun annonce 5 sites et non plus 4 pour accueillir la CAN 2019. Le nombre d'équipes participants étant passé de 16 à 24. Désormais, on aura 2 sites à Yaoundé, le complexe Omnisport de 40 000 places et le nouveau stade de 60 000 places en construction. Douala, Bafoussam et Garoua abriteront chacun un site. Les Camerounais ont toutefois 5 mois supplémentaires pour terminer leurs travaux, la CAN se disputant désormais en juin et juillet et non plus janvier et février.
Le Cameroun obligé de revoir ses plans après les résolutions du comité exécutif de la CAF.
Oui, suite à l'incident meurtrier qui a eu lieu samedi dernier à Dakar, les autorités sénégalaises ont suspendu toute manifestation sportive jusqu'à la fin de la campagne électorale. Exception pour leur match retour, les Lions locaux de la Teranga vont recevoir les Sierra Leone à Bikim en banlieue dakaroise ce samedi. Les deux équipes s'étaient neutralisées 0-0 au match aller. Autre rencontre, les Guinéens de Conakry tenteront d'achever le boulot à domicile face à ceux de Bissau qu'ils ont défait au match aller 3-1.
Match retour des éliminatoires du CHAN Kenya 2018 Sénégal-Sierra Leone en banlieue dakaroise par dérogation. Du cyclisme, Hagen s'impose à la plus longue étape du Tour de France.
Oui, le Norvégien a sauvé le Tour de France de son équipe en remportant la 19e étape en Brun Salon de Provence, 222,5 km. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune à la veille du contre-la-montre de Marseille et à 2 jours de l'arrivée finale.
Merci Yacouba.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive À votre avis à 18h, temps universel, ce vendredi sur VOA Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera dès 2019 avec 24 équipes en juin. Est-ce une bonne ou mauvaise chose pour le football africain ? Le Cameroun peut-il organiser cette CAN nouvelle formule en si peu de temps ? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous êtes toujours sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour et on commence par la Côte d'Ivoire. Abidjan, perle des lagunes, devient la capitale des 8e Jeux de la francophonie qui durant du jour vont susciter l'appétit du monde sportif et culturel de l'espace francophone. Des Jeux s'ouvrent sous fond de tensions militaires dans le pays. Le point avec Narita Namasté, notre correspondante à Abidjan.
Les 8e Jeux de la francophonie s'ouvrent officiellement ce vendredi en début de soirée à Abidjan, en présence du président Alassane Ouattara, dans un contexte de série de mouvements d'humeur militaire. Ismaël Sanogo estime que le moment n'est pas opportun.
La francophonie est une tribune qui permet la communion de beaucoup de nations pour mettre en place une symbiose au niveau de la francophonie. Mais nous pensons que cela se déroule dans une atmosphère un peu délétère parce que le pays même qui accueille, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, est actuellement en pleine ébullition. Et donc cela fait que, en tant que Ivoirien, nous jugeons que le moment n'est pas opportun.
Ismaël Sanogo reste pessimiste sur les retombées de ces jeux pour son pays.
La Côte d'Ivoire peut gagner dans un premier temps. Pour qu'elle gagne, il faut qu'il y ait l'adhésion de la population. Or, actuellement, la population est un peu apeurée, la population n'est pas contente, la population est un peu timorée.
Véronique Kouakou, coiffeuse, a une vision tout à fait inverse, une vision optimiste de la francophonie économique, mais surtout à long terme pour son pays.
Le jeu de francophonie, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, parce que quand ils vont finir de faire, les stades, les hôtels restent toujours pour la Côte d'Ivoire, ça peut aider la Côte d'Ivoire. Donc, au moins, c'est pas du gaspillage.
La Côte d'Ivoire se servira de la grande visibilité qu'offrent les jeux de la francophonie pour mettre en évidence ses atouts. Les jeux d'Abidjan génèrent des avantages sur le plan économique, comme nous le confirme Roger Banco, styliste, qui a déjà confectionné plus de 1000 tenues avec des colorations traditionnelles.
Dans notre domaine, en tout cas aujourd'hui, nous sommes en train de boucler tout ce qui est vêtements et tout ce qui est vêtements à l'effigie de la francophonie. Donc je peux dire que c'est maintenant, en tout cas, qu'on sent que la francophonie chez nous.
Le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara a exhorté les Ivoiriens à plus d'hospitalité vis-à-vis des délégations étrangères. Près de 4000 athlètes et artistes issus de 84 pays sont annoncés à ce rendez-vous sportif et culturel qui mobilisera 700 jours analyse pour 500 millions de téléspectateurs. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
C'est parti pour la campagne en vue du référendum du 5 août en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdel Aziz s'est exprimé hier devant des milliers de ses partisans et a appelé à voter oui à la modification de la constitution. L'opposition radicale, elle, appelle au boycott. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint Nouakchott, l'éditorialiste Falomer.
Il y a un gros intérêt parce que il y a des enjeux qui sont d'abord celui de la participation. Parce qu'il y a un groupe de l'opposition et non des moindres qui a prôné le boycott, qui a décidé de boycotter ces élections et de ne pas y participer. Sur un deuxième plan, il y a effectivement le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'acceptation ou non, c'est-à-dire le oui ou le non, parce qu'il y a un parti, au moins un parti qui vote le non ou qui prend le non, un parti d'opposition. Troisièmement, sur le contenu aussi de ces réformes proposées, c'est-à-dire que il y a énormément de choses nouvelles, comme la suppression du Sénat, son remplacement par les conseils locaux.
Est-ce que vous pensez que l'opposition dite radicale avait vraiment raison d'appeler au boycott? Pourquoi ne pas simplement battre campagne pour le non si elle n'est pas d'accord?
Moi, je suis un éditorialiste qui a toujours prôné la participation parce qu'en démocratie, on ne peut pas continuer à boycotter la participation à des processus démocratiques, surtout qu'il n'y a pas à mon avis, ou ce qu'on voit, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que vous boycottez si vous pouvez bloquer les choses, si vous pouvez bloquer la rue, bloquer la vie, mais rien de tout ça. Ce référendum va passer. parce que même avec un taux de participation minime, ça n'a jamais été une délégitimation d'un processus référendaire.
Pourquoi le président Abdelaziz s'implique autant sur cette campagne alors que s'il s'agit de son dernier mandat?
D'abord, je pense qu'il entend laisser un héritage politique, quelque chose de nouveau qui sera son brevet à lui. Deuxièmement, s'impliquer lui-même, c'est sans doute, parce que son personnel politique est aussi calant. Enfin, il est obligé lui-même chaque fois de monter au créneau pour recadrer les choses, pour replanter les décors. Mais essentiellement, je crois que sa volonté, son ambition, c'est de laisser quelque chose à la Mauritanie après son départ.
Le débat pour un troisième mandat ne se pose pas en Mauritanie comme dans d'autres pays africains en ce moment, non?
En fait, il ne se pose pas dans la mesure où lui-même, il a dit et répété qu'il ne le cherche pas. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des soutiens à lui qui disent « bon, il faut un troisième mandat, etc. » Mais ça ne se pose pas.
C'était l'analyste politique et éditorialiste Fall Omer au micro d'Abdourahmane Dia.
Pour mémoire, en exil à Bangui depuis 2002, le chef de guerre tchadien, le général Mohamed Abdelkader Oumar.
Au Tchad, le général Mohamed Abdelkader Oumar, alias Babalade, qui veut dire lion de la forêt, est en détention à la maison d'arrêt de haute sécurité de Korotoro dans le nord du pays depuis janvier 2015, sans aucune forme de procès. Le collectif de ses avocats dénonce cette détention prolongée à travers un point de presse. André Koudjaman-Jinjar.
Pour mémoire, en exil à Bangui depuis 2002, le chef de guerre tchadien, le général Mohamed Abdelkader Oumar, alias Babalade, était rentré au pays en 2012 suite à un accord politique conclu avec le président Déby. Aussitôt rentré, il a été nommé conseiller chargé des missions à la primature, puis préfet du département de la Grande Sido. Et c'est en décembre 2014 qu'il a commencé à avoir des ennuis avec le même pouvoir. Sa résidence avait été encerclée par le service de sécurité, mais il a échappé à nouveau pour se réfugier à Bangui. Arrêté en décembre 2014, les autorités centrafricaines de la transition à l'époque l'ont estradé le 12 janvier 2015 par les soins des éléments de la MINUSCA. Entendu par le juge d'instruction, il a été transféré à Korotoro et jusqu'à ce jour, son procès tarde à avoir lieu. Maître Jean Sirina, l'un de ses avocats, dénonce cette détention sans jugement.
Nous voulons rappeler ici que tout accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation. Lui, il était prévenu à Bangui, présenté devant un magistrat qui a ouvert une information judiciaire contre lui. En ce moment, il prend l'appellation d'inculpé. C'est donc différent d'un condamné. Et nous précisons aussi que notre client est malade, puisque nous avons ici le rapport médical établi par un médecin qui dit que ce citoyen-là a besoin d'un suivi spécifique d'un médecin attitré.
Maître Alain Kagombe, membre du dit collectif, interpelle les hautes autorités de la République sur cette détention qu'il qualifie d'illégale.
Même le juge d'instruction qui a la charge des dossiers ne sait pas qui l'a fait partir à Korotoro. S'il y a quelqu'un qui nous entend quelque part et qui a la possibilité de faire avancer la procédure, que cette procédure avance. Sa famille dit qu'elle n'a pas la preuve de sa vie. Qu'on le ramène à N'Djamena pour que le juge d'instruction qui a la charge du dossier puisse examiner l'affaire. Qu'on le ramène à N'Djamena pour qu'il puisse avoir droit au soin.
Selon l'accord signé en 2012 avec les autorités de N'Djamena, il a été convenu de transformer son mouvement politico-militaire en un parti politique. Le dossier a été engagé sous l'appellation du FPR, Front Populaire pour le Redressement, mais les autorités refusent de donner l'autorisation de fonctionner alors que le ministère en charge a 45 jours, selon les textes de la République, a donné suite. Lombaï Bekoutou est le vice-président du FPR.
Ce dossier nous a été rejeté au motif que notre président est en prison. Nous, on a réagi pour dire qu'il n'est pas condamné à ce que je sache. Donc, à ce titre, nous considérons que notre parti est légal et que nous devons fonctionner.
André Kodouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Un rapport sur l'enrichissement de la famille du président Joseph Kabila, le groupe de recherche pour le Congo à l'université de New York, auteur du document, estime que le chef d'État congolais n'est pas le seul, mais qu'une partie de l'élite congolaise, y compris dans l'opposition, est dans le même sac. Eddie Isango a joint le chercheur du groupe de recherche pour le Congo, Jason Stearns.
Ce n'est pas seulement la famille Kabila. Il y a beaucoup de gens qui ont prospéré, y inclus dans l'opposition. Si on voit par exemple le chef Moïse Katumbi, Si on fait, on pouvait écrire un rapport, je pense qu'il ne serait pas très très différent que du rapport qu'on a vient d'écrire sur la famille de Kabila. Donc, ce n'est pas, je pense qu'il est facile de se perdre dans le sensationnel avec ce rapport, mais je pense qu'il faut vraiment, ce que nous voulons surtout souligner, c'est les problèmes structurels d'une économie qui bénéficie quelques milliers de personnes, mais qui laisse dans la pauvreté des millions de personnes, et une économie qui manque de transparence et redevabilité, et qui compromet sérieusement la démocratie congolaise.
À combien vous estimez cette richesse accumulée par la famille du président Kabila?
Ils ont plus de 90 francs compagnies qui les appartiennent. Évaluer la valeur de ces compagnies, c'est plus difficile. Ce que nous savons, c'est que des centaines de millions de dollars sont passés dans ces compagnies en termes de revenus depuis 2003 et qu'on peut évaluer la valeur de leurs avoirs au moins dans les dizaines de millions de dollars. C'est très conservatrice comme estimation, je pense. Nous soulignons plusieurs questions sérieuses, notamment la façon dont ils ont acquéri ces compagnies et les possibles conflits d'intérêts qui pourraient exister entre les membres de famille et leurs affaires. Il y a des questions sérieuses que le Parlement et le système judiciaire congolais devraient se poser.
En réaction à cela, les porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, dit que la Constitution n'interdit pas au président de la République ni à sa famille.
C'est en partie vrai, en partie faux. La Constitution interdit au président Kabila de mener certaines affaires qui pourraient poser un conflit d'intérêts. D'ailleurs, tout membre du gouvernement, tout fonctionnaire public au Congo est interdit d'entrer dans les affaires qui pourraient poser un conflit d'intérêts. Comment ça se fait que maintenant ils ont des compagnies qui incluent des concessions diamantifères qui s'étendent plus de 720 km long de la frontière avec l'Angola? Ils ont une partie qui fabrique textile le plus grand du Congo. Ils ont des actions dans la compagnie du téléphone le plus important, Vodacom, en RDC, et j'en passe. Donc, il y a des questions, je pense, sérieuses à se poser par rapport à cela, mais nous ne disons pas dans le rapport que nécessairement ce qu'ils ont fait était illégal. Nous ne disons pas nécessairement ce que c'est de la corruption. Ce que nous voulons faire, c'est mettre au jour, à la lumière de tout le monde, leurs avoirs.
C'était donc l'expert Jason Stearns au micro d'Eddie Isango.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
Écoutez mon cœur, un échantillon de ce que vous allez écouter ce soir au RM Show. Et c'est déjà la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph, à la console Cédric Franklin, à la présentation Ekia Badou. Merci pour votre fidélité au programme de la VOA Afrique et on reste connecté via la page Facebook VOA Afrique et sur voaafrique.com. Excellente soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.